toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Sophie Tourlotin.
De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair. Alors une fois n'est pas coutume, un peu de poésie, quelques vers de Verlaine, pour lancer tous les cinémas du monde, car il va en être beaucoup question de musique dans cette émission. Avec tout d'abord un documentaire sorti en salle mercredi, Rewind and Play. C'est le nouveau film d'Alain Gomis que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour Sophie.
Merci de venir longuement nous parler de Rewind and Play. C'est un film, un documentaire monté à partir d'archives inédites et dans lequel on apprend à connaître le grand pianiste de jazz afro-américain Thelonious Monk. À l'affiche de notre cinéma aussi ce samedi, le rôle des bandes originales de films avec Thierry Jousse qui vient de publier Une histoire illustrée de la musique au cinéma. Et puis nous irons en Israël avec un film détonnant, Cinéma Sabaya.
And the first time I came to France, I was ossified all the time I was here.
No, we don't say anything about that anymore.
That's what okay? I mean, everything. It's no secret, is it?
No, but it's not nice.
It's not nice.
Rewind and Play, un extrait de la bande-annonce Alain Gomis de votre nouveau film, 6 ans après Félicité, hein, ce très beau portrait de femme, Mère Courage, à Kinshasa. Là, c'est un documentaire, Rewind and Play, et même plus précisément un documentaire d'archives. Vous avez travaillé une émission de la télévision française qui avait reçu Thelonious Monk, ce géant du jazz, un pianiste afro-américain. Alors, on sait, Alain Gomis, que votre cinéma est imprégné de musique. Je parlais de Félicité, bon, les autres films précédents aussi. Dans Félicité, il y avait, je crois, l'orchestre...
Mikasa Eurostar, voilà. Et l'orchestre symphonique Kimbanguiste.
Voilà. Ouais. Et là, Thelonious Monk, comment est né déjà ce projet de documentaire, de found footage, comme on dit, hein, vous avez retrouvé des archives?
Ben, vraiment par accident. Je travaillais sur un autre projet, sur Thelonious Monk, et justement, travaillant sur ce projet, en recherchant des choses sur lui, il nous est arrivé ces rushs dans un paquet envoyé par l'INA, et même ne savaient pas trop qu'ils avaient ça là-dedans. Enfin, ils nous ont envoyé tout ce qu'ils avaient. Et donc, il y avait les rushs miraculeusement conservés d'une émission qu'il avait enregistrée en 69. Ouais. Et donc, on pouvait voir la fabrication de l'émission. Et on pouvait voir Thelonious Monk en prise avec l'image qu'on voulait fabriquer de lui. Alors d'abord, ce qui était vraiment bien, c'est de pouvoir le voir lui enfin tel qu'il est, avec sa particularité, mais en même temps quelqu'un de beaucoup plus ouvert et en contact avec les autres que ce qu'on a bien voulu dire de lui. Et la machine en action de comment on essaye, tout en voulant en faire la promotion, de le transformer en un objet... Donc c'était une espèce de génie excentrique, un peu fou, etc. Parce que c'est sans doute plus vendeur, ou c'est ce qu'il se pensait à ce moment-là. Et on le voit, lui, en lutte avec ça.
Est-ce qu'on peut resituer donc Monk pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, parce que bon, le nom est quand même connu, enfin je pense, hein, Thelonious Monk, c'est presque un peu mythique, mystérieux aussi. Alors c'est un immense artiste, il était né en 1917 aux États-Unis. Descendant d'esclaves, d'où le nom Monk étant, comme beaucoup de Noirs américains, venus de l'ancien propriétaire, si je puis dire, ouais, du 19e siècle. Il avait grandi, lui, dans une famille de musiciens. Vous le connaissez, enfin, vous connaissez sa musique, Alain Gomis, depuis longtemps, vous cheminez avec
Oui. Moi, c'est quelqu'un dont j'apprécie la musique depuis très longtemps, et puis aussi qui m'intrigue comme... Enfin, voilà la qualité de quelqu'un où on gratte, et puis on s'arrête jamais de gratter. C'est toujours de plus en plus intéressant. Et quand il y a la mythologie qui apparaît, ça, elle est fascinante. Et en même temps, quand elle s'en va quand on arrive à voir un peu plus le il continue d'être, il devient encore plus intéressant, et sa musique aussi. Donc voilà, c'est comme on met le doigt dedans, on enfonce le bras et la tête et tout ce qu'on, voilà, il y a, c'est quelqu'un qui, je crois, continue de nous apprendre beaucoup de choses, et sur l'art d'une manière générale, je dirais. C'est un exemple pour moi, vraiment, et dans la vie, sur comment se comporter avec toutes ces choses là qui nous enferment là.
Donc, lui, il avait commencé, je crois, par apprendre la musique classique. Enfin, il avait commencé, il a fait ses gammes. Donc, je disais, dans une famille de musiciens, il a une formation de musicien classique.
Alors, il vient pas d'une famille de musiciens. Il est, son père est un peu joué. Enfin, il jouait un petit peu comme ça, quoi. Mais il n'était pas musicien vraiment, ni sa mère, qui voilà, se débrouillait juste pour essayer, parce qu'elle a élevé ses enfants beaucoup seule, et essayer de se débrouiller comme elle pouvait pour leur offrir la meilleure éducation possible. Et en fait, par contre, à ce moment-là, beaucoup d'enfants réussissent à avoir une éducation musicale, même dans des quartiers difficiles. Lui, notamment, on leur offre un piano mécanique, donc il y a cette première fascination pour ce truc avec ses... C'est touche qui bouge toute seule. Et puis sa sœur prend des cours de piano, alors que lui, on le met à la trompette. Mais il apprend en regardant les cours de sa sœur. Et bon, comme beaucoup de grands musiciens, il a cet accès assez direct, c'est-à-dire qu'il entend quelque chose, il est capable de le reproduire.
Il a l'oreille absolue.
Il a l'oreille absolue, puis il a ce truc de mathématicien, c'est-à-dire que c'est un truc d'intervalle, c'est-à-dire de réussir à passer de l'intervalle qu'on entend entre deux notes à le figurer sur un piano ou sur une guitare, etc. C'est des gens avec des gros cerveaux, quoi.
Alors on va écouter l'un des tubes de Thelonious Monk. Je pense que les auditeurs, au moins, l'ont entendu une fois. Around Midnight, mm-hmm. Alain Gomis, Thelonious Monk. C'est un tube, un des standards du jazz.
Ouais, c'est son tube. Il a cherché longtemps à avoir un tube parce qu'il faut manger, quoi. Et celui-là, il ne l'a même pas reconnu tout de suite parce qu'en fait, au départ, ce n'est pas son nom qui a été déposé. Il a mis du temps à la récupérer, en quelque sorte. Mais c'est, je crois, l'un des morceaux qui a été... C'est peut-être le morceau qui a été le plus enregistré et repris.
Donc, il a été composé en 1944,
ouais.
Ce morceau-là.
Ouais.
Donc, beaucoup repris, c'est ça, par...
il apparaît comme étant, finalement, le morceau qui a été le plus repris par les jazzmen et d'autres, d'ailleurs. Et c'est bizarre comme... C'est le compositeur de jazz qui a été le plus réenregistré après. Et il y a un drôle de truc entre lui. Il a jamais vendu beaucoup de disques, beaucoup d'albums. Et en même temps, il a une aura qui a dépassé tout ça. Moi, j'ai découvert en voyant les images qui m'ont été envoyées que quand il est mort, au journal français télévisé...
Donc, de début des années 80, 82,
ouais, en 82, ils ont diffusé des moments de son enterrement au journal télé français. Donc il avait une espèce, alors qu'il vendait pas comme Miles Davis ou etc. Il
avait, c'était pas Charlie Parker.
C'était pas Charlie Parker, mais il était extrêmement respecté d'abord comme musicien parce qu'il a ouvert des champs nouveaux par ses harmonies, par sa façon de faire, de traiter le rythme, etc. Il a ouvert vraiment des champs nouveaux et c'est un musicien les musiciens le respectaient énormément.
Parce que donc il était révolutionnaire en quoi il a déconstruit la mélodie et le rythme. Est-ce qu'on peut dire ça ou est-ce que c'est réducteur?
Non, je pense que moi je suis pas musicien mais c'est ce que disent les musiciens et c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est pas dans la jolie phrase. Donc il a créé des ruptures. Il fait partie, je crois, de ces gens qui ont essayé de faire se dire que finalement. Alors, il dit un truc, par exemple, à un moment, il dit « ce que tu joues pas est plus important que ce que tu joues ». Donc, et qu'il y a un truc pour les peintres, pour les cinéastes, pour les... important de comprendre, à un moment, c'est pas ce qui est dit, c'est ce que tu réussis à faire ressentir qui compte. Et là, le spectateur, l'auditeur, etc., reçoit beaucoup plus, en fait. Et donc, voilà, il amène ça. Et il permet, derrière lui... En ouvrant les structures comme ça des morceaux à tous les gens de l'avant-garde, les Coltrane et puis après au free jazz, de s'engouffrer dans les brèches que lui a ouvertes quoi.
Il a joué avec Charlie Parker, il a joué avec d'autres, mais il était plutôt solo ou plutôt bande?
Les deux. Il a été enregistré en solo un peu après et. Mais c'est quelqu'un de qui a il jouait dans des formations il a tout de suite aimé jouer avec les autres je crois encore une fois contrairement à ce qu'on a voulu dire de lui.
Alors donc c'est dire si en 1969 quand il arrive donc à Paris pour cette émission Thelonious Monk qui en fait il est déjà connu.
Ouais.
Est-ce que c'est déjà une star du jazz?
Mais il a fait la une du Time Magazine par exemple. Donc ça, surtout à cette époque-là, ça arrivait à très peu d'artistes noirs. Donc oui, c'est quelqu'un de très connu.
Alors ce qui frappe quand on voit votre film Alain Gomis, donc Rewind and Play, donc les rushs de cette émission Jazz Portrait, rush enregistré en décembre 69, c'est à quel point le présentateur qui est Henri Renaud, qui est un pianiste lui-même, qui connaît bien la musique, qui est admiratif, admiratif, on le voit quand même, il est plutôt bienveillant, mais en même temps, il préfère l'anecdotique, il pose des questions. Par exemple, dans cet extrait, il va poser une question et il veut absolument faire dire à Thelonious Monk pourquoi il a installé son piano de concert dans sa cuisine.
J'ai eu la chance de fréquenter Thelonious Monk en 1954 à New York et d'aller fréquemment chez lui. À l'époque, il habitait un petit appartement dont les pièces étaient vraiment exiguës, à l'exception de la cuisine. Il jouait alors sur un petit piano droit qu'il avait placé dans son salon. Puis, plus tard, quand le succès est venu, il a changé de piano, il a acheté un grand piano de concert. Et comme seule la cuisine était capable de contenir cet instrument, il n'a pas hésité une seconde, il l'a placé dans la cuisine. Si bien que, vous le voyez sur cette photo, quand on entre chez Thelonious, on aperçoit le piano, entouré de l'évier, du réchaud à gaz, du fer à repasser, des choses comme ça. Thelonious, why did you put your piano in your kitchen?
Because that was the largest room in the apartment.
En fait, Thelonious vient de vous redire ce que je vous avais dit. Thelonious a placé son grand piano dans sa cuisine parce que c'était la pièce la plus grande de tout l'appartement.
Voilà. On entend presque la déception du présentateur qui attendait peut-être, je ne sais pas, une réponse excentrique. Alors qu'en fait, Thelonious Monk va y répondre de manière très pragmatique.
Très pragmatique, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans le jeu espèce de romantisation de sa propre
légende,
sa pauvreté, ouais. entre guillemets. C'est-à-dire que s'il vit, il vit dans ce petit appartement, c'est pas extraordinaire. C'est pas pour lui un élément de sa gloire. C'est un moment qui a duré très longtemps, difficile de sa vie véritable. Et que, oui, alors on peut transformer ça en quelque chose de formidable, d'excentrique, de mettre son piano dans sa cuisine, et de vouloir dire, ah oui, et puis il y avait de la vaisselle dessus, il y avait tout ça dessus, et tout ça. Mais non, mais c'est juste que c'est la seule façon pour lui d'avoir un piano à queue chez lui, c'est de le mettre à cet endroit-là. Et donc il y a quelque chose là qu'on entend de cette espèce de façon, dans la volonté de parler de lui, d'en faire quelque chose d'extraordinaire, de romantiser, quelque chose qui est âpre en fait, qui n'est pas du tout romantique, qui est, et c'est un peu violent de le recevoir en fait. Du coup le film il essaie juste de changer le point de vue, de ne pas être dans le point de vue de celui qui raconte Thelonious Monk, mais du point de vue de Thelonious Monk qui du coup est raconté comme ça.
Bah oui, parce qu'effectivement ce qu'on voit en action, enfin c'est un génie qui résiste à sa façon, c'est-à-dire soit par les silences, soit par l'honnêteté, à rentrer dans une case qu'on a voulu. Alors, en plus, Henri Renaud, ce qu'on ressent, nous spectateurs, puis spectateurs 50, plus de 50 ans après, c'est à quel point il a l'impression d'être super progressiste. Mmh. Et en fait, comment il reproduit des stéréotypes, il est condescendant presque.
Il n'est pas, oui, il est vraiment condescendant. Mais sans le savoir, il a. C'est ça qui est terrible, en fait. C'est pas un méchant gars. Et au contraire, je pense qu'il est vraiment. Il aime Thelonious Monk en tant que personne. Et il aime vraiment, vraiment sa musique. Et c'est là où le film nous interroge. Comment ça se fait mais ça arrive tous les jours. Et ça continue d'arriver. Que tout en voulant faire la promotion de certaines personnes, on les enferme dans leur caricature, en fait. Comment, dans nos façons de parler des choses, il n'y a pas de rencontre véritable. Et qu'on est sans cesse en train de reproduire des images qui sont réductrices, qui sont... Ce qui se passe sur ce plateau, c'est qu'on... Finalement, tout ce qu'a dit Thelonious Monk a été supprimé. Ce qui a été gardé, c'est le récit fait par Henri Renaud de sa vie. Et que la présence et les réponses de Thelonious Monk lui-même sont devenues un obstacle au récit qu'on voulait en faire. Donc on l'a supprimé. Et cette violence-là, elle est... Mais... Tout le monde la connaît aujourd'hui. Tout, et pas seulement à travers des médias. C'est-à-dire que, voilà, cette façon d'enfermer, de vouloir parler des choses, parce que, d'une certaine façon, ça nous rend moralement plus admissibles à nous-mêmes. Et c'est là que Henri Renaud nous interroge. Si on se met à le pointer du doigt, comme si c'était un horrible monsieur, ça a pas tellement d'intérêt. Par contre, si on se demande comment nous-mêmes, au moment où on croit qu'on a compris, au moment où on veut se faire apparaître comme justement des gens modernes, ouverts d'esprit, on est capable d'être beaucoup plus nocif, finalement, que quelqu'un qui apparaît dans sa violence, peut-être que le film peut servir à quelque chose.
Mmh. Et y a un autre passage aussi qui est très violent, je trouve, en tout cas, spectateur, on le ressent d'autant plus violemment, c'est un passage sur le Festival de Paris. Parce que Henri Renaud, en fait, il explique qu'il avait fait venir Thelonious Monk en 1954, donc 15 ans avant l'enregistrement de cette émission, pour qu'il se produise sur scène. Et on sent que le présentateur aimerait que Thelonious Monk exprime de la gratitude, alors que lui explique avoir touché un cachet inférieur à celui des autres artistes.
I had no idea I made my popularity in France until I got over here. And when I got here, I mean, they had Jerry Mulligan and treating them as the stars, but they had my picture on the front page of the magazine for the concert. And all that, and I couldn't get no musicians. I came over by myself, and there was no musicians to work with me or anything. When nobody let their musicians work with me, and I practically had to play by myself. Finally, I got some fellas to play with me, and I was getting less money than anybody. That's what happened.
Thelonious dit que. À cette époque, il ignorait totalement quel genre de popularité il avait en France. Il a trouvé sa photo en première page d'un magazine de jazz. Mais il a été déçu de voir qu'on n'avait pas prévu de musicien pour l'accompagner. et que d'autre part, il avait été certainement celui qui a reçu le cachet le plus bas. Voilà tout ce qu'il peut dire à ce sujet-là.
Voilà, puis à un autre moment, Henri Renaud dit ça, on va couper son
livre. Juste derrière, il dit bon, ça, on va pas le dire parce que.
C'est pas gentil.
C'est pas gentil. Voilà, c'est désobligeant. Et oui, soit vous apparaissez tel qu'on a envie de vous montrer, soit vous n'existez pas en fait.
Mais est-ce que vous pensez que c'est une forme de racisme ? Parce qu'on est quand même en 69, bon, même si en France la situation n'est pas pareille qu'aux États-Unis, enfin c'est pas la même histoire, mais aux États-Unis il y a tout le mouvement des droits civiques en plus, mais c'est une forme de racisme, le côté, ben, bon, déjà on vous reçoit, maintenant faut être gentil, quoi, faut dire merci.
Exactement. Exactement. C'est-à-dire qu'il est dans son effort, lui, d'avoir réussi à le mettre à la télévision à ce moment-là, etc. Et que c'est comme s'il crachait un petit peu dans la soupe. Déjà, on vous reçoit, tu m'aides pas, là. Mais oui, mais il n'a pas envie d'être reçu comme ça. Il n'a pas envie d'être montré comme ça. Si c'est ça le prix à payer, vaut mieux pas m'inviter. Si c'est pour faire de moi quelque chose d'autre, quelque chose qui va servir une machine qui m'est étrangère et qui finalement m'enlève ce que je suis, arrêtons. Et là où Monk est merveilleux et intègre, etc., c'est qu'il se plie jamais au jeu. Voilà, il le fait par les silences, il résiste beaucoup. Il y a un moment où il veut partir, justement, parce que même quand il parle en français en disant « on va couper ceci », il sent bien qu'il y a un truc qui se passe. Et donc, voilà, c'est cette espèce de... Et ça continue d'exister partout, cette façon de... Faut rentrer dans une case qui est la case admise à ce moment-là. On va prendre ceux, on va élire ceux qui répondent aux besoins du moment pour se donner l'illusion qu'on traite vraiment les choses. Mais en fait, la seule volonté, c'est de conserver les choses comme elles sont. Donc, il y a quelque chose qui, tout à coup, là, nous permettait de le voir en action et qui est franchement malaisant quand on regarde le film.
C'est ça, c'est très dérangeant, ouais. Effectivement. Parce qu'on est, nous, spectateurs, dans le point de vue de Thelonious Monk. C'est comme ça que vous avez retravaillé les archives ?
Exactement, c'était d'essayer de montrer cette chose dans son point de vue à lui. Et du coup, dans cette espèce de violence qu'il connaît bien. Il est habitué à ça, je pense que c'est aussi pour ça qu'il utilise beaucoup le silence. De cette... c'est pas de vous dont on parle, en fait, d'une certaine façon. Il y a quelque chose où finalement, vous êtes que l'objet passager d'une volonté de... qui ne vous appartient pas, qui ne fait pas partie de votre histoire. Et votre histoire, elle est absolument écrasée.
Après, il a une double particularité quand même, Thelonious Monk, c'est qu'il apparaît clairement neuro-atypique. Enfin, il est atypique.
Il est atypique que dans sa façon de ne pas jouer le jeu, pour moi, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un bon client, comme il se dit parfois dans les médias. Il n'a pas, même dans son débit, on l'entend là.
Il a presque un peu la bouche un peu pâteuse. Alors, je sais pas, à un moment, dans les rushs, on le voit prendre... Mais bon, c'est juste boire un verre de Calva dans un café. Du coup, on se demande si c'est...
Non,
si
c'est son rythme à lui. Il est fatigué, il vient de 3 semaines de tournée. Il a joué tous les jours. Ça fait 20 ans de sa vie qu'il joue pratiquement tous les jours. Et puis, à ce moment-là, les concerts, c'est pas les concerts. C'est pas, voilà, quand il a joué toute sa jeunesse, c'est presque toute la nuit, tout le temps. C'est une vie difficile, beaucoup de travail pour peu d'argent. Et puis après, il est comme il est. Lui, c'est pas un acteur comique. il a son débit à lui. Et effectivement, dans le temps et le format qui lui est proposé, tout à coup, il paraît maladroit, hors de... Mais c'est juste que le format, il réussit pas à se mettre à son service. Le seul moment où il le fait, c'est quand il passe au piano. Et là, il maîtrise le temps, l'espace. On ne sait pas si le morceau va durer 2 minutes et 5. Et enfin, il apparaît dans ce qu'il est, dans sa force. Mais c'est vrai que si on veut faire de lui une espèce de quelqu'un qui va répondre au tac au tac, qui va avoir la blague qu'il faut, la petite formule qu'il faut, maintenant, c'est pas lui.
Et la musique, on l'a enfin. Enfin, c'est-à-dire que si nous spectateurs, on attend ce moment-là, c'est une libération en fait de le voir au piano.
Ouais, c'est une libération. Vraiment, et tout à coup, enfin, on peut s'exprimer. Et je crois qu'on comprend aussi un peu tout ce qu'il y a dans sa musique. sa musique, elle est nourrie de tout ce qu'on a vu avant, de toutes ces façons de le regarder. Il est regardé comme une bête curieuse, en fait. Depuis le moment où il pose les pieds à l'aéroport, il est regardé comme une bête curieuse. Et il le connaît, ce regard. Qui ne connaît pas le regard quand on vit en Europe, quoi que ce soit, qu'on est considéré comme différent.
Qu'on est racisé, vous voulez dire, ou
qu'on
même
est racisé,
au-delà de ça.
Par exemple, mais je pense que je me suis aperçu en France, j'ai beaucoup voyagé avec le film, et en France, par exemple, que je crois que les femmes comprennent mieux le film que les hommes. Cet endroit-là où on sait que tout à coup, on se permet des choses qu'on se permettrait pas avec quelqu'un d'autre. Cette chose un peu sourde qui est jamais dite, ça dit jamais son nom, mais on sait à peu près de quoi il s'agit. Voilà, beaucoup de gens, les racisés la connaissent évidemment, mais pas seulement.
Et dans ce film Rewind and Play, Alain Gomis, il y a des compressions sonores. Bon, vous montrez bien les silences, peut-être que vous les avez aussi fait durer, il y a des faux raccords. Est-ce que dans la forme aussi, bon, qui montre que l'on est dans le point de vue de Thelonious Monk, il y avait aussi une façon presque d'épouser sa révolution mélodique et harmonique, d'être au diapason par le biais du montage de sa révolution à lui.
Oui, parce que je pense qu'il a, on a un petit peu parlé tout à l'heure, il amène quelque chose dans le fait de dire, ok, on va pas essayer de dire la chose d'un point de vue extérieur, on va pas essayer de faire une ligne parfaite, je vais pas essayer de vous dire ce que vous devez penser, je vais mettre des morceaux et des trous entre ces morceaux et des ruptures pour essayer de vous faire ressentir quelque chose. Donc ça vient de lui, cette façon d'écrire sans dire, en fait, en quelque sorte. Donc oui, moi, il m'inspire, et si je l'admire autant, c'est parce que, pour moi, c'est une sorte de maître. Donc je trouve qu'il ouvre des possibilités de récit à une époque où, effectivement, normalement, le récit, ça doit tout dire. Normalement, parce que le film était conçu aussi pour une case en pleine nuit, où je savais que j'avais cette liberté-là.
Ça avait été diffusé sur Arte, c'est ça ?
Sur Arte, la Lucarne, etc., où j'avais un espace... J'étais pas obligé de mettre une voix off, j'étais pas obligé d'expliquer avant qu'on voit les images d'où provenaient ces images, j'étais pas obligé de mettre en place toutes ces choses qu'on m'aurait demandé et qui, en fait, auraient tué le film. J'aurais dû vous dire ce qu'en fait, les images permettaient juste de se ressentir. Et je pense que c'est plus fort de ressentir cette énorme solitude, malaise par soi-même, quoi.
Est-ce que, Alain Gomis, vous avez montré ce film à la famille de Thelonious Monk ?
Ouais, à son fils, ouais. C'était une projection très émouvante. D'abord, je l'ai fait pendant le montage, à un moment où j'étais assez proche de la fin, pour savoir un peu si je déconnais pas trop. Et donc son fils m'a dit d'abord, c'est l'homme que je connais. Et puis surtout, il était très très ému, il a pleuré pendant presque toute la durée du film. Il m'a dit, à cette époque-là, je suis à l'école, je me doute pas de ce qu'il doit subir pour nous faire manger, en fait. Parce que, ouais, il y a quelque chose, il fait le boulot, on le voit, vraiment, il fait le boulot, quand il le fait vraiment, il y va à fond, et puis on lui redemande, c'est-à-dire qu'il est gêné par ce qui se passe, il l'a exprimé à d'autres endroits, il est gêné par la façon dont on parle de lui, mais en même temps, il faut faire le travail. Donc il est confronté toute sa vie et toute sa vie d'artiste, non seulement dans les médias, mais aussi même dans la salle. Beaucoup de gens viennent le voir aussi parce qu'on vient voir le fou, on vient voir l'excentrique, on vient voir le marrant qui met des chapeaux et tout ça, etc. Et lui, on le voit traverser ça avec une dignité, une générosité aussi incroyable, une dignité, c'est-à-dire que plein d'autres se seraient énervés. Lui, il reste droit, il reste... concentré sur ce qu'il a à faire, mais on voit que ça coûte.
Il faut savoir que, alors je ne sais pas combien d'années après l'enregistrement de cette émission, mais il a été diagnostiqué bipolaire, il s'est enfermé dans le mutisme vers la fin de sa vie, non ?
Mais même ça, c'est-à-dire que je pense que...
Ça construit une légende, c'est ça que vous voulez dire ?
Ça construit une légende. Oui, il a eu des moments de dépression, oui, il a eu des il a une capacité au silence, mais c'est aussi quelqu'un donc qui est très bavard. On le voit à certains endroits, sur d'autres aussi images.
Ah oui, il refuse pas du tout le contact. C'est
il
pas
refuse
du tout,
pas
effectivement...
le contact. Je pense qu'on a appuyé là-dessus. Et puis, franchement, la psychiatrie de l'époque, elle a classé.
et encore maintenant.
Et sa vraie différence, je pense, elle est dans sa capacité à l'honnêteté, c'est-à-dire à jamais faire la phrase attendue, à jamais jouer le jeu. Ça le rend, enfin, les gens très honnêtes dans toutes les sociétés, ils ont l'air fous.
Et du coup, à Lingomis, vous en êtes tout du projet de biopic. C'est en attente, c'est en pause, c'est bientôt.
C'est, j'espère bientôt. On écoute toujours des histoires de droit. J'espère que je ne me porte pas la poisse à parler de ce film trop tôt.
Bon.
Voilà. Mais en tout cas, c'est en voie. On avance dessus.
Et pour terminer avec Rewind and Play, parce que, est-ce que vous allez le montrer au Centre Yenenga? Parce que ça me permet de faire le lien, parce que vous avez cofondé ce centre qui est à la fois un centre de formation à Dakar, de post-production, donc pour terminer quand, le montage d'un film, le mixage son. Et c'est un lieu de projection aussi, un centre social.
Ouais, c'est le premier lieu où on l'a montré. Donc oui, bien sûr, on a montré là-bas. Et j'étais étonné de voir qu'au Sénégal, il y avait aussi autant de fans de Monk, en fait. C'est un truc, un espèce de... Voilà, un exemple d'intégrité qui... Il a cette aura-là, et ça, c'est vrai. Et donc, on a fait une belle projection, on en a fait deux.
Donc récemment parce que le film a d'abord été projeté, c'était il y a un an, à la Berlinale.
Ouais. Donc, peut-être la première projection était à la Berlinale et juste après au centre.
Super.
Donc voilà, ouais, c'est un endroit qui est important pour moi. Parce que, justement, puisqu'on parle des formats et de cette capacité à essayer de dire les choses en dehors des lignes qui nous sont imposées, avoir un endroit de post-production où on peut faire du montage, où on peut maîtriser un peu plus le récit tel que... libérer entre guillemets des codes imposés, peut-être que ça va permettre de dire les choses de la façon dont on a envie de les dire.
Alain Gomis, merci.
Merci à vous.
Je rappelle le titre donc de votre documentaire sorti mercredi en salle en France, Rewind and Play. Une pause musicale dans tous les cinémas du monde, une découverte qui a enthousiasmé notre réalisatrice Fanny Renard. Ce sont les Estoniennes du duo Root que l'on écoute avec ce titre, Nightingale.
That you ever did hear, and he played us such merry tunes that the valleys did ring, and they both sat down together to the nightingale sing, and the kiss so sweet and comforting as they clung to each other. They went arm in arm along the road like sister and brother. They went arm in arm along the road till they came to a stream, and they both sat down together to the nightingale sing.
Vous êtes bien sûr RFI, à l'écoute de tous les cinémas du monde. Dans l'imaginaire du cinéma, la musique de film a longtemps été considérée comme un parent pauvre. Aujourd'hui, ce genre connaît un véritable engouement, mais l'histoire des BO, hein, les bandes originales de films, est encore trop méconnue. Un journaliste et auteur, un passeur, Thierry Jousse, se consacre lui à montrer l'importance du compositeur, hein, qui est le troisième auteur d'un film avec le scénariste et le réalisateur. Cet ancien rédacteur en chef des Cahiers du cinéma est aussi producteur chez nos confrères de France Musique, producteur de l'émission Ciné Tempo. Il vient de sortir aux éditions EPA un ouvrage de près de 300 pages intitulé « Bande originale ». Ce livre retrace l'histoire de la musique au cinéma, de l'âge d'or hollywoodien aux super productions contemporaines. Dans la préface de son ouvrage, Thierry Jousse rappelle que la musique de film a longtemps été donc le parent pauvre du cinéma, un art mal considéré, voire méprisé par les cinéphiles. C'était surtout le cas en Europe, beaucoup moins aux États-Unis et à Hollywood. Thierry Jousse au micro d'Edmond Sadaka.
Hollywood a pris au sérieux très, très tôt la musique de film, hein, dès les années 30. En fait, dès le début du parlant, la musique, il y avait des départements musicaux dédiés à la musique dans les grands studios hollywoodiens. Donc, il y avait moins de sous-estimation. Mais malgré tout, je ne suis pas tout à fait sûr que les Lalo Schifrin, les Jerry Goldsmith, voire les John Williams, qui a été reconnu là, étaient quand même reconnus exactement comme des compositeurs équivalents à des compositeurs, disons, entre guillemets, sérieux. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a moins la hiérarchie entre les choses savantes et les choses populaires, parce que c'est un pays plus jeune, parce qu'ils ont intégré l'idée de la culture populaire de manière beaucoup plus naturelle que nous. Donc oui, de ce point de vue-là, la musique de film a été sûrement considérée beaucoup plus tôt comme quelque chose d'important et voire de précieux.
Dans les années 50, c'est le jazz qui va faire son apparition dans les musiques de films, et ça va se passer tout d'abord, là encore, aux États-Unis.
Bah, c'est un moment de renouvellement. La musique de film épouse un peu les modes, mais les genres musicaux qui émergent. Donc, naturellement, dans les années 50, le jazz est devenu un vocabulaire à part entière. Hein. Il existait déjà dès les années 30, mais bon, dans la musique de film, ça recommence avec des mélanges un peu de musique symphonique et de jazz, par exemple dans Un tramway nommé Désir d'Elia Kazan. Et puis ensuite, L'homme au bras d'or de Otto Preminger avec Frank Sinatra, qui est d'ailleurs l'histoire d'un jazzman junkie. Et puis, il y a évidemment ensuite et là c'est plutôt en Europe, c'est-à-dire c'est là le moment l'ascenseur pour l'échafaud et quelques autres films d'ailleurs, hein, où des musiciens américains sont de passage à Paris, travaillent sur des musiques de films, et la plus célèbre étant Ascenseur pour l'échafaud, puisqu'on sait que Miles Davis a improvisé sur les images. Et ensuite finalement ça continue aussi d'une certaine manière dans les années 60, parce que des compositeurs comme Michel Legrand ou Lalo Schifrin ou Quincy Jones, qui a fait la musique de film, ce sont des compositeurs venus du jazz, donc dans leur musique, le jazz est quand même encore très présent.
Et beaucoup de réalisateurs français vont s'approprier un petit peu cette musique de jazz à partir de la fin des années 50, début des années 60.
Les réalisateurs de cette génération, comme par exemple Claude Sautet ou Louis Malle bien sûr, Jean-Paul Rapneau ou d'autres, étaient des vrais amateurs de jazz, parce que le jazz était la musique que les jeunes écoutaient finalement à cette époque-là. Quand on avait entre 20 et 30 ans, le jazz c'était vraiment la musique branchée finalement de l'époque. Donc ça s'est aussi retrouvé dans les films de cette époque, des films français de cette époque, à cause de ça.
Jean-Pierre Melville, il avait une approche très personnelle de ces musiques, je crois.
Alors Jean-Pierre Melville avait la réputation d'être assez dur, comme avec tout le monde, hein, avec les acteurs. Il était fâché avec Lino Ventura sur le tournage de L'Armée des Ombres, hein, il se parlait par assistant interposé. Bon, le caractère de Melville est connu comme un caractère difficile, et en même temps c'était un grand amateur de musique, de jazz en particulier, mais de fait il a refusé plusieurs musiques, hein. Il a refusé la musique de John Lewis, qui était le pianiste du Modern Jazz Quartet, pour le Deuxième Souffle. Il a refusé la musique de Michel Legrand pour le Cercle Rouge. Donc c'est vrai que ça a été quand même, ça se faisait, évidemment il y a eu toute une histoire des musiques refusées, mais à la limite c'est plus aux États-Unis que ça s'est passé qu'en France. Mais lui, voilà, il était un peu inflexible. Et après, par exemple la musique du Cercle Rouge, qui a été finalement composée par un compositeur que j'aime beaucoup, qui est un peu méconnu, qui s'appelle Éric de Marsan, à vrai dire elle est vraiment mythique. Celle de François de Roubaix pour Le Samouraï, elle est aussi très 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 réussie. Donc c'est vraiment aussi malgré tout un réalisateur qui avait vraiment un sens musical, et ça on le sent, les réalisateurs qui ont un sens musical, dans la manière de faire arriver la musique, de la manière de la placer, de la manière enfin, comment la musique joue avec l'image, comment elle lui donne une couleur, un rythme. C'est vrai que Melville fait partie de ces réalisateurs qui ont eu cette intuition-là, cette vision-là, si on peut dire, du rôle de la musique dans ces films.
amour sur ces chanteurs qui se sont aventurés dans les musiques du film. Il y a notamment Michel Polnareff. Il n'a pas été très productif, mais c'est une production qui a compté.
Oui, il y a quelques BO de Michel Polnareff entre le début des années 70 et la fin de la décennie, notamment celle de La Folie des Grandeurs de Gérard Oury, qui était un peu d'ailleurs dans un style qu'il avait voulu un peu à la Ennio Morricone, mais avec quand même sa touche à lui, hein, qui était très pop. C'est un surdoué, Michel Polnareff. Il a fait la chanson d'un film un peu oublié aujourd'hui, mais qui s'appelle Ça n'arrive qu'aux autres. Mais la chanson est vraiment très belle de Polnareff, film de Nadine Trintignant. Bon, il a travaillé de loin en loin. C'est typiquement quelqu'un qui, étant donné ses moyens considérables en termes de composition, c'est vraiment un surdoué, je le disais, aurait pu faire beaucoup plus. Bon, sa carrière de chanteur l'a vraiment empêché. Mais on trouve comme ça des. Quand on cherche un peu. Bon, par exemple, on sait pas très bien que Georges Moustaki a fait plusieurs musiques pour le cinéma. C'est des curiosités, voilà, comme ça il y a des Pierre Vassilieu même de temps en temps a fait deux ou trois, enfin bon, il y a des curiosités au fond. Ce qui est marrant dans la musique de film, c'est que c'est un endroit très très ouvert où tout le monde peut arriver à un moment ou à un autre, c'est-à-dire des gens qui viennent du conservatoire le plus sérieux, mais aussi des gens qui viennent de la pop, de la chanson, voilà, des autodidactes, il y a toutes sortes de gens, et c'est le côté, non pas auberge espagnole, mais c'est le côté très ouvert de la musique de film qui moi aussi m'attire, parce que j'ai des goûts musicaux aussi assez variés quoi, au fond.
Thierry Jousse, est-ce que le rôle de compositeur de musique de film reste aujourd'hui ingrat quelquefois?
Bah, c'est-à-dire qu'il y a plus de reconnaissance pour les musiciens, les compositeurs ou les compositrices, il n'y en a pas encore beaucoup, mais enfin, il commence à y en avoir quelques-unes. Il y a plus de reconnaissance pour dans la période contemporaine que si on était compositeur dans les années 50-60. En revanche, je dirais que parfois, en même temps, c'est parfois moins valorisant aujourd'hui, parce que comme on a renoncé dans le cinéma, de manière générale, un peu à l'idée d'un thème, enfin d'un thème qu'on retient ou d'une chanson, voilà, la musique est devenue aujourd'hui plutôt quelque chose qui est très présent, mais en même temps, c'est parfois un peu comme un tapis, on l'aperçoit sans l'apercevoir, il y a quelque chose comme ça d'étrange, surtout dans les blockbusters américains, où elle est très abondante, mais parfois on s'en aperçoit même pas. Si vous faites l'expérience, vous demandez à des gens, à la sortie d'un, je sais pas, d'un film de Christopher Nolan ou d'autres, enfin d'un Marvel, n'importe quel film de ce genre, si vous demandez à un spectateur s'il se souvient de la musique, je suis pas sûr qu'il s'en souviendra forcément, il aura peut-être même pas conscience que la musique était si abondante dans le film, et pourtant elle est là. Donc je dirais, je suis partagé, c'est-à-dire que c'est à la fois beaucoup moins ingrat, parce que la reconnaissance est plus là, et en même temps, le travail qu'on demande à un compositeur est peut-être, à certains égards, plus ingrat qu'il l'était dans les années 60-70.
La musique du film reste l'apanage des hommes. Pourquoi ça bouge si lentement, d'après vous?
C'est un problème qui n'est probablement pas unique à la musique de film. Hein. On peut dire les chefs d'orchestre, il n'y a pas beaucoup de femmes non plus. Il n'y avait pas énormément de jazz women non plus, à part les chanteuses, bien sûr. Donc c'est une féminisation qui se fait produit lentement, disons. Jusqu'aux années 60, il n'y avait quasiment pas de femmes compositrices pour le cinéma. Depuis 20-30 ans, ça a commencé. Il y a quand même eu trois Oscars qui ont été donnés à des compositrices. Bon, c'est peu, mais enfin, c'est déjà quelque chose. Là, on évalue en ce moment, enfin, aujourd'hui, en France, à moins de 10% la quantité de partitions composées par des femmes. Bon, ça va bouger, parce que je pense que si on se reparlera peut-être pas dans 20 ans, mais si on se revoyait dans quelques années, on verrait que sans doute que la proportion a augmenté sensiblement, parce qu'il y a beaucoup de jeunes compositrices aujourd'hui, en tout cas pour ce que je connais en France, que le comme on dit, le plafond de verre maintenant existe beaucoup moins, et qu'on n'hésite plus à demander à une femme de composer. Mais enfin, j'ai pas d'explication en fait réellement à ce, si ce n'est que les femmes n'ont pas été suffisamment présentes sur un certain nombre de domaines artistiques, et que la musique de film en fait partie, et y compris en France, où la profession est quand même assez largement féminisée. Il y a beaucoup de femmes chefs opératrices, monteuses évidemment, mais enfin même ingénieurs du son et ainsi de suite, réalisatrices bien sûr, mais en effet, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de compositrices.
Alors Thierry Jousse, quelques-uns de vos coups de cœur peut-être en matière de musique de film, j'imagine que vous en avez beaucoup, mais quels sont ceux qui vous viennent à l'esprit en tout premier?
C'est difficile. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, John Barry. Alors, il y a une bande originale d'un film des années 60 que j'adore, qui s'appelle Hippie Crest, Danger Immédiat. C'est un film d'espionnage avec très pop, comme ça, avec Michael Caine. Et ça fait partie des BO un peu cultes, bon, qui sont pas aussi célèbres. Il y a des BO de James Bond magnifiques. Hein. La BO de On ne vit que deux fois, c'est vraiment très beau. Bah, j'adore de John Barry aussi le thème d'Amicalement Vôtre, la série avec Roger Moore et Tony Curtis, hein, qui est un thème absolument mythique et que je trouve vraiment magnifique. C'est difficile parce qu'il y a tellement de coups de cœur possibles qu'il y aurait forcément un peu de Morricone. Moi, j'adore la BO de, pour prendre des choses assez célèbres, mais il y en a des moins connues. Mais celle de Il était une fois la Révolution est magnifique. Je dois avouer que je suis assez tourné vers les années 60-70. C'est peut-être parce que c'est ma période de jeunesse, mais aussi parce que c'est quand même un âge d'or où il y a eu beaucoup de grandes BO. Mais dans les dernières années, par exemple, moi j'ai beaucoup aimé, alors c'est justement une femme qui l'a composé, la musique du film de Pablo Larraín, Jackie, donc qui était une sorte de portrait très personnel de Jackie Kennedy à la mort de son mari, John, qui est une musique un peu qui a une certaine inspiration comme ça, qui vient lointainement de Bernard Herrmann, mais qui crée un effet dans le film qui est vraiment assez saisissant. Ça fait partie, voilà, de coups de cœur que je pourrais donner là dans des musiques qui sont récentes et en plus composées par une femme, ce qui ne gâte rien.
Thierry Jousse, hein, auteur de Bande originale aux éditions EPA. Edmond Sadaka nous précise que son livre permet aussi, grâce à un QR code, d'accéder à une sélection d'une soixantaine de musiques de films. On termine cette émission en Israël pour parler de Cinéma Sabaya, un film que l'État hébreu souhaitait présenter aux Oscars américains dans la catégorie du film international, mais la candidature n'a pas été retenue par l'Académie des Oscars. Cinéma Sabaya permet une plongée au sein de la société israélienne et de ses tensions au moment où le gouvernement le plus extrémiste que n'ait jamais connu Israël venait d'être créé. Nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Michel Paul.
Sabaya en arabe, c'est un groupe de femmes et avec une orthographe légèrement différente, ce sont des prisonnières. Cinéma Sabaya, c'est l'histoire de 8 femmes, juives et arabes, certaines voilées. On trouve aussi une chanteuse, une immigrante russe et une marginale. Elles suivent un atelier vidéo dans le centre communautaire d'une petite ville israélienne. C'est l'histoire toute simple de leur vie et de leur lutte. Orit Fuchs-Rotem est la réalisatrice de ce film.
Pour moi, ce n'est pas vraiment un miroir de la société israélienne, parce que cela ne reflète pas tous les genres de personnes qui vivent ici. Mais c'est certainement un regard lancé en direction d'un groupe de femmes que l'on trouve en Israël en 2022.
Une jeune cinéaste équipe les 8 participantes de caméras et les envoie chez elle pour documenter leur vie. Les images qu'elle crée et rapporte à l'atelier dépeignent le drame de la vie quotidienne en Israël. Fiction et réalité sont étroitement entremêlées. Emmanuel Meyer, responsable du casting.
Alors c'est vraiment chaque actrice, c'est une histoire différente. Les 2 femmes voilées ne sont pas voilées dans leur vraie vie. Mais par exemple, Yelena, elle est vraiment divorcée. Avec 2 filles qui habitent chez sa mère. Elle a vraiment amené son propre histoire dans le scénario, dans le film. Et il y a le moment où les femmes, elles filment les extraits, les petits extraits qu'elles montrent dans le groupe, dans l'atelier cinéma. Là, elle a vraiment filmé sa propre fille, sa propre maison. Et je pense que ça, grâce à ça, on se sent très, très attaché à elle et à son histoire.
Nationalisme et haine de l'autre, Cinéma Sabaya reflète sans même déformer la situation d'un Israël post-électoral. Orit Fuchs-Rotem.
Oui, le film sort en pleine période d'obscurantisme en Israël. Ce n'est pas un film politique qui prétend dire ce qu'il faut penser. C'est un film qui traite de l'amour du prochain et de femmes qui veulent vivre ici de manière différente de ce que l'on nous propose. Alors j'espère qu'il apportera un peu de lumière en cette époque.
Cinéma Sabaya est un film de femmes sur des femmes et il raconte une histoire différente.
C'est ainsi que s'achève Tous les cinémas du monde, une émission présentée par Sophie Torlotin, réalisée par Fanny Renard. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même cinéma. Nous serons en compagnie de David Chou pour son nouveau long métrage Retour à Séoul. 10 ans dans la vie d'une jeune femme adoptée bébé en France et en quête de ses origines coréennes. D'ici là, bonne semaine à tous.